Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à la grande conférence de la Nuit de la philosophie. Je me présente, Philippe Marchand, je suis membre du comité organisateur et au nom de toute l'équipe de la Nuit de la philosophie, il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir dans l'enceinte de l'auditorium de la Grande Bibliothèque. Nous remercierons d'abord les trois partenaires principaux de cette grande conférence. D'abord, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Canal Savoir et l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. La conférence de cet après-midi se déroulera en deux temps. Nous entendrons d'abord les interventions de nos trois panélistes, que nous remercions d'ailleurs très chaleureusement, Michel Freitag, Shannon Bell et Miguel Benassayag. En deuxième partie, votre participation sera sollicitée. Il y a des micros dans la salle qui sont à votre disposition. Notez que la conférence est actuellement diffusée sur le web par le service de l'audiovisuel de l'UQAM et sera télédiffusée dans quelques semaines sur les ondes de Canal Savoir. Vous pourrez également la retrouver en balado-diffusion sur le site de BANQ et ultérieurement sur le portail audiovisuel de l'UQAM, uqam.tv. Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous offrons une traduction simultanée de l'anglais vers le français et des résumés de façon consécutive du français vers l'anglais en partenariat avec Alternative. Nous remercions au passage nos deux traducteurs bénévoles, John Drundle et Simon Tremblay-Pepin. À la suite de cette conférence, nous vous invitons à poursuivre votre nuit de la philosophie dans le pavillon Judith Jasmin de l'UQAM, où quelques 200 autres activités vous attendent pour tous les goûts, jusqu'à 10 heures demain matin. Je vous laisse à présent au bon soin du chef d'orchestre de cette conférence, votre animateur, doctorant en pensée politique à l'Université d'Ottawa et chercheur à l'Institut de recherche de l'information socio-économique, M. Éric Martin. Bonne conférence.
Bonjour, bonjour. Notre discussion d'aujourd'hui va être placée sous un titre assez large, Globalisation, crise, résistance, contre-pouvoir, société. Quand on parle de crise, on parle aussi d'une perte de repère, une perte de sens, un sentiment d'urgence. Et évidemment, on a besoin de pistes alternatives, de solutions. Mais on a aussi besoin de la faculté de juger, de savoir distinguer entre ce qui est vivant, ce qui est mort, ce qui doit être transformé absolument, mais aussi ce qui doit être préservé, sans quoi on va peut-être précipiter la barbarie qu'on pensait empêcher. Je parle ici non seulement de la crise économique dans laquelle nous sommes plongés, mais aussi de la crise écologique et de la crise de la culture, à tel point qu'on devrait peut-être parler d'une crise de société ou des sociétés face à la nébuleuse techno-capitaliste, celle qui partout est en train aujourd'hui de détruire le lien social et le lien communautaire sur son passage. C'est-à-dire les conditions mêmes qui permettaient l'autonomie des sujets, des communautés, des sociétés. Celles qui leur permettaient d'exister jusqu'à maintenant et celles-là qui, pour le moment encore, nous permettent de penser la lutte et la résistance. C'est dire combien nous sommes fragiles, surtout dans un contexte où tout ce qui n'arrive pas à se justifier d'après les critères de la performance, de la puissance, de la force, semble destiné à être balayé par le progrès déferlant d'un système emballé qui s'appelle le capitalisme avancé, financiarisé, globalisé, pardon. Cette globalisation devait permettre aux sociétés qui acceptaient de se prêter à son jeu, celui de la guerre économique, de connaître la prospérité. Mais la condition était claire, il fallait confier la régulation de l'économie à un système automatique, un système fétiché, celui du capitalisme financier. Maintenant, la crise nous tombe dessus et nos élites nous parlent de refonder le capitalisme. Mais si le capitalisme s'avérait fondamentalement, dans sa nature même, insoutenable pour les sociétés, les communautés, les personnes, le reste du vivant, alors quelle résistance, quel contre-pouvoir, quelle forme de refondation du commun peut-on envisager? Si le capitalisme lui-même est le problème, parce qu'il mène tout droit à la barbarie, faut-il et peut-on commencer à parler à nouveau de socialisme, de lutte de classe, d'anarchisme, de décroissance, etc.? Pour en discuter aujourd'hui, Shannon Bell, professeur au département de sciences politiques de l'Université York, auteur de l'ouvrage « Reading, Writing and Rewriting the Prostitute Body », Miguel Benassayag, au bout, philosophe, psychanalyste, militant et auteur d'éloges du conflit, et Michel Freitag, au milieu, professeur émérite au département de sociologie de l'UQAM, auteur de l'impasse de la globalisation. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Michel Freitag. Merci.
T'entends pas, hein? Je vais commencer par rendre hommage à la Nuit de la philosophie et à ses organisateurs, en disant qu'il appartient à la philosophie de dévoiler la nature des choses ou l'essence des choses, et en tout cas d'y réfléchir. la nature du monde, la nature de la vie, la nature de l'être humain, la nature de la société et de l'histoire sont donc éminemment des objets de la philosophie. Depuis l'Antiquité, plusieurs philosophes ont affirmé qu'il n'y avait pas de nature des choses, que c'était une construction du langage. C'était la position du nominalisme depuis le Moyen-Âge, mais cette position s'est amplifiée énormément depuis le développement de la société moderne. Je pense que cette prétention qu'il n'existe pas de nature des choses à laquelle on doive réfléchir et qu'il faille essayer de dévoiler est une aporie, et la preuve en est que la nature des choses se révèle au moment de leur disparition. On peut prétendre qu'il n'y a pas de nature distincte de la vie et de la matière, mais cette nature se révèle très clairement lorsque l'animal vivant devient un cadavre. Et la question se pose de c'est quoi qui a donc disparu dans l'arrivée du cadavre. J'ai dit que l'objet de la philosophie comportait les grandes questions, puis la nature de leur nature, la nature des réalités auxquelles elles correspondent, et que parmi ces questions, il y avait la nature de la société. La nature de la société a toujours été un objet de la philosophie politique, etc. Alors comment inclure directement le capitalisme comme un objet de la philosophie ? La raison paraît très évidente maintenant, elle l'était peut-être moins il y a deux siècles, c'est que le capitalisme est en train de mettre tout à fait directement la main sur la totalité de la société et à travers la société, puisque l'être humain est un être social et historique, il est en train de mettre la main sur la société et l'histoire. Si vous me permettez, comme j'ai un quart d'heure, je vais me convertir à la lecture. C'est un peu plate, mais comme ça, je suis à peu près sûr d'arriver à couvrir un peu le sujet que je me suis préparé. En effet, en un quart d'heure, il faut aller un peu vite et carré, et j'essaierai de cerner un peu c'est quoi la nature du capitalisme en un certain nombre de propositions dont je pourrais apporter aucune démonstration, mais pour vous convaincre d'une certaine validité de ces définitions ou de ces caractéristiques que je vais présenter, je pense qu'il suffit de respirer un peu l'air du temps, puis de lire de temps en temps les journaux et éventuellement même quelques livres. Le capitalisme a assis son existence sur deux institutions, la propriété privée et l'échange marchand, régulés par le contrat et non plus par des pactes. Une grande différence entre le contrat et les pactes. Le contrat, c'est une initiative individuelle. Les pactes mettent en relation, selon toutes sortes de conditions, des collectivités qui sont déjà instituées comme telles à travers l'histoire et selon un certain nombre de normes. Donc, en passant des pactes au contrat, on évacue l'ensemble des normes historiques qui structurent la vie sociale de la négociation et de la décision. L'économie qui s'est développée sur cette base, Aristote l'a qualifié de crématistique par opposition à l'oikonomia. C'est une distinction qui reste absolument vitale. Marx, d'ailleurs, dans le Capital, s'y réfère tout en indiquant qu'elle reste hautement significative. L'oikonomia, comme son nom et comme son étymologie l'indique, c'est la gestion des affaires humaines pratiques selon des normes qui visent à réaliser un équilibre, à réaliser la satisfaction des besoins, à réaliser le maintien de l'harmonie et la prospérité de la communauté, quelle que soit sa dimension. Ça peut être l'oikos, la maison, la famille, ça peut être la cité, ça peut être l'état-nation, ça peut être le monde entier. le monde entier peut être considéré comme une maison commune qu'il faut habiter et gérer en tenant compte d'exigences normatives de maintien de l'équilibre et d'amélioration des relations, des échanges. Par contre, la crématistique, déjà du temps des Grecs, parce qu'il y avait déjà l'essor d'une économie commerciale, c'est simplement le savoir-faire de l'argent. C'est la maximisation de la valeur de l'argent. Alors, le capitalisme s'est développé sur la base de ces institutions qu'il n'a pas inventées, elles étaient déjà millénaires, mais il a pu s'emparer de l'économie nouvelle qui s'est construite sur elle et qui était l'économie industriel capitaliste. Et c'est à partir du développement du capitalisme du capitalisme industriel que la dynamique de la logique du capitalisme s'est progressivement imposée à l'ensemble de la société. Le développement du capitalisme a entraîné des ruptures de solidarité dans la société, tout le monde le sait, l'a mis en péril non seulement des gens, mais les équilibres sociaux en général, et a suscité du même coup différentes interventions qui limitaient l'autonomie principielle de la propriété et du marché dans la gestion de l'économie collective. Tout ça, on peut le résumer très rapidement en disant que c'est l'ensemble des mesures sociales qui ont été prises dans le cadre du réformisme social-démocratique. Face à ce réformisme, il y a eu la théorie marxiste et les théories révolutionnaires affirmant que le capitalisme n'était en aucune façon réformable et qu'il fallait au contraire pousser, accélérer son implantation afin que par une crise interne, il laisse place à un nouveau régime qui le remplacerait, on pourrait dire, comme naturellement. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, je reviendrai tout à l'heure sur cette question, mais en attendant, depuis que le problème est posé, depuis un siècle et demi ou deux, on a vu que la mainmise du capitalisme sur l'ensemble de la société n'a fait que s'accélérer, que se diversifier, que s'approfondir. Alors là, je vais lire une petite liste que tout le monde connaît, mais c'est quand même intéressant de mettre les choses ensemble. Ce qui s'est passé avec le capitalisme, c'est en tout premier la mainmise sur les moyens de production et sur le travail, c'est-à-dire à travers ça sur ce qui était l'économie en tant qu'un domaine limité de la vie sociale. Il s'est approprié l'économie et la dynamique de l'économie en même temps qu'il s'appropriait le nouveau mode de production industrielle. Mais à partir de là, sa pénétration dans l'ensemble du circuit social, dans l'ensemble des institutions, s'est énormément multipliée. Alors, je lis une liste des domaines sur lesquels, on peut dire, le capitalisme a étendu son emprise. Il a mis sa mainmise sur les besoins à travers la production des besoins. C'est un thème qui est très courant, la publicité, la manipulation psychologique, etc., etc. Les besoins n'ont plus rien de naturel. Ils sont directement produits, on pourrait dire, en circuit fermé par le système économique qui a pour fonction sociale légitime de satisfaire des besoins. Mais une fois qu'il produit lui-même des besoins, la légitimité de cette fonction s'effondre d'elle-même. Il a mis sa main sur la culture avec la production d'une culture de masse. La culture de masse n'est pas une culture spontanée, ce n'est pas une culture initiée spontanément par les gens, les individus et les communautés. Elle est entièrement, d'un bout à l'autre, et industrialisée, et donc elle est tombée directement dans le champ d'expansion du capitalisme qui en contrôle les développements, les orientations, etc. Il a mis la main sur la science et la création technologique, tout le monde le sait. Et en mettant la main sur la science, il a complètement détourné l'idée même de science, l'idée de connaissance, vers une simple idée de maximisation de l'efficacité de toutes les interventions techniques dans tous les domaines. Il est en train de mettre la main sur le vivant avec les biotechnologies, etc., etc., les nanotechnologies, etc. Il est en train de mettre la main sur l'éducation en assujettissant l'éducation à la recherche et en assujettissant la recherche à une logique productiviste, qu'elle soit directement au service de l'économie ou au service de n'importe quoi d'autre. Il s'agit d'une contrainte de production et d'augmentation de production qui est en train de mettre son emprise sur toute la dynamique de l'éducation et sur les finalités de l'éducation. Ça se voit notamment dans toutes les réformes pédagogiques. Il est en train de mettre la main sur le droit et la production du droit en transformant de plus en plus de l'intérieur ou de l'intérieur les mécanismes juridictionnels en procédure d'arbitrage qui laisse les individus finalement façonner un droit à leur mesure et à la mesure de leurs intérêts, et où ce droit d'arbitrage obtient, même au niveau des conventions internationales, une préséance directe sur le droit national qui a été établi, démocratiquement ou non, dans le cadre d'un système parlementaire ou par des pouvoirs qui détiennent une légitimité. Le cas de l'arbitrage, par exemple, est très clair dans le cadre de l'accord de l'AMI, l'accord sur la mobilité des investissements, où toutes les législations nationales encadrant l'économie étaient subordonnées à l'arbitrage d'un tribunal spécial qui aurait été désigné par, non pas par les États membres de l'AMI, mais par les grandes institutions commerciales et économique internationale, ainsi que par, et directement par les grandes sociétés multinationales. Il y a une mainmise sur les marchés eux-mêmes, lui, le capitalisme qui partait de l'autonomie des marchés, a pris contrôle de tous les marchés dans une première phase, et dans une deuxième phase, il y a une quasi-suppression du marché dans la virtualisation de tous les marchés par le sommet, c'est-à-dire à partir de la virtualisation des titres, la spéculation boursière et financière. Vous savez que la spéculation boursière et financière, les actes liés à cette spéculation, les échanges de valeurs et de titres, dépassent de 50 fois l'ensemble des transactions réelles sur des biens ou sur des services. Il a mis sa main sur l'État de différentes manières. Une des manières, c'est d'attirer l'État dans la gestion de l'économie, donc d'assujettir l'État à une gestion prioritaire de l'économie. Mais il met la main directement avec le déploiement de tout le système des lobbies. Il met la main directement à travers la manipulation de la démocratie, etc., etc. Sur chacun de ces thèmes, on pourrait écrire évidemment très longtemps et sortir des milliers d'exemples. Il a mis la main sur la propriété elle-même, ça depuis une cinquantaine ou 80 ans. Lui qui était né de la propriété privée en tant que propriété d'individus est devenue un pur slogan. En réalité, la véritable propriété est devenue la propriété spéculative et virtuelle, et toutes les propriétés qui renvoient encore à des biens et à des usages de biens sont maintenant dans leur valeur entièrement suspendues à cette propriété virtuelle et spéculative. Il a mis la main sur les connaissances à travers la propriété intellectuelle. Il a mis la main sur la psychologie et sur l'intimité humaine, notamment à travers des théorisations qui en sont directement l'expression idéologique, comme la théorie du calcul rationnel de Becker, comme cette espèce de diffusion universelle d'un modèle behavioriste dans toutes les études psychologiques et les enseignements de la psychologie, où les êtres humains sont considérés comme des rats en concurrence, etc., etc. Là, on peut continuer la liste. Tout cela est en cours, rien n'est achevé. Mais le capitalisme n'est plus le système de la propriété du marché, il est devenu le système tout court, le système suprême et omniprésent. Et ce système se caractérise par un très haut degré d'immatérialité et d'abstraction. n'y a rien de plus immatériel que la spéculation boursière. Et pourtant, tout le monde le sait, c'est elle qui commande tout. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que ça, mais tout le reste obéit désormais à ça. Le signe de la victoire du capitalisme est que nous en dépendons tous dans notre vie. On en dépend pour nos jobs, on en dépend pour nos revenus, on en dépend pour les biens que nous consommons, on en dépend... Alors je vais arrêter là et passer à un point suivant. Je dépasserai d'une minute. Il y a trois apories dans le capitalisme. Il y a d'abord une aporie principale à double face. C'est qu'il y a une face formelle et une face matérielle à l'aporie du capitalisme. La face formelle, c'est qu'il transforme tout en valeur et soumet tout à la loi de la valeur. C'est sa loi de fonctionnement. Si on n'abolit pas le capitalisme, il ne subsiste qu'en transformant tout ce qu'il touche en valeur et en soumettant tout à la loi de la valeur. Il supprime en cela toute différence. Toute différence entre la valeur des choses, les valeurs d'usage, les individus, les personnes, les sociétés. Il aplanit tout, il met tout dans le même moulin que la loi de la valeur. Et cette loi de la valeur, il l'a dématérialisée en la projetant dans l'univers infini de la valeur virtuelle. Ça, c'est un thème, à mon avis, qui est hautement philosophique parce qu'il touche au cœur essentiel de la nature humaine. Deuxième face du capitalisme, c'est la face matérielle. La face matérielle, c'est que le capitalisme est un système d'expansion infinie et que ce système d'expansion infinie vient buter contre les limites finies du monde. Et il vient buter d'une manière qui est de plus en plus proche. Tout le monde le sait, encore 20 ans, encore 50 ans, et le niveau de dégradation autonome de la vie sur Terre sera plus récupérable. Donc il y a une situation d'urgence, et c'est peut-être notre espoir, parce que le capitalisme détruit ses propres conditions de survie, et si la crise qui résulte de cette crise écologique vient suffisamment vite, il y aura peut-être les ressources humaines et les volontés pour changer de système. Troisième aporie, c'est celle qui résulte, on pourrait dire, ou qui consiste à supprimer la dualité des autres, à supprimer la différence entre un côté matériel et un côté immatériel. Cette suppression s'opère très précisément dans l'informatisation de tout. L'informatique, là, une pièce de monnaie, elle a deux faces, une médaille, elle a deux faces, mais l'informatique, elle n'a pas de face. Elle est l'univers infini de la l'univers infini de la des signes. Alors, le capitalisme produit à ce troisième niveau l'illusion de pouvoir échapper au monde réel et au monde symbolique dans le monde virtuel qu'il produit lui-même. Et donc, ça pourrait indéfiniment continuer parce qu'on ne rencontre plus de limites ni dans les cultures, ni dans la nature. Ça, c'est le nouvel opium du peuple. Si on me permet, je lis pour ne pas perdre de temps. Depuis deux siècles, le capitalisme s'est nourri des crises que son mode d'existence provoque. Il s'en est nourri justement parce qu'il ne peut pas les résoudre lui-même. Et qu'à chaque fois, la société est venue à son secours, non seulement pour réparer les dégâts ou les absorber, mais pour relancer le capitalisme. Et à chaque fois, le capitalisme mettait ainsi un peu plus la main sur la société. Il s'assujettissait un peu plus les instances, les rouages, les pouvoirs, les ressources matérielles et morales de la société. D'une crise à l'autre, le capitalisme n'a cessé de se renforcer et d'étendre sa suprématie. En gros, c'est exactement ce qui se passe encore cette fois-ci. Mais il y a une différence, c'est que la limite que le monde met par son existence à l'expansion du capitalisme est devenu beaucoup plus proche. Maintenant, très vite, le choix qui s'impose à l'humanité, c'est le maintien du monde ou la survie du capitalisme, une fois de plus, jusqu'à la fin du monde. Faire que le capitalisme ait été une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, 3 siècles, c'est très peu. Ou alors laisser le capitalisme aller et devenir la solution finale à tous les problèmes et à toutes les questions. La philosophie pose les vraies questions, disait Socrate, mais c'est même celles qui n'ont pas de réponse. Parce que je ne pense pas que la réponse actuellement elle soit facile à trouver. Et j'avais laissé un peu un temps, mais j'en ai plus, pour esquisser l'horizon de quelques réponses. Mais je n'aborderai pas cette question.
Merci Michel Freytag. Notre deuxième présentation sera la présentation de Mme Shannon Bell, à qui je cède la parole immédiatement.
So this is called shooting theory in 3 parts. Accursed philosophy, pastiche politics, extreme aesthetics. Accursed philosophy. The use value of Georges Bataille for the current global economic crisis. Globalization, neoliberalism, anti-globalization have all become extreme fetishized concepts. In a sense, they are dead concepts. There's actually nothing mysterious about globalization. We know that globalization is the extension and expansion of capitalism at increasing speed, almost the speed of light, and that globalization involves neoliberalism, Americanism, the technological internet revolution, and the collapsing of space into time. French philosopher of technology and theorist of speed, Paul Virilio, in October 18th Le Monde interview, said of the current financial crisis, quote, "It is impossible to understand what is going on if one does not implement a political theory of speed. The speed that technological progress engenders, and if one does not link this to the accidental character of history. For Virilio, the accident is part of the very technology or system it catastrophically damages. That is, the system produces the accident. Georges Bataille, French philosopher of waste and excess theorist of risk, who in 1946 wrote A Political Economy of Excess, in which expenditure is the key, has a use value for the current global economic crisis come political crisis. The British economist Keynes is being revamped and recycled by liberal and left economists alike. And face it, Keynes should get a comeback replay time just for that hot concept, fiscal stimulus, that is now part of our everyday financial speak, and for his less well-heeled concept, liquidity trap. But I'm seduced more by toxic assets. Bataille's accursed share gone global in the financialization of the capital accumulation process. Accursed share, that excessive and non-recuperable part of any economy, either spent luxuriously, without gain, or catastrophically in a manner that threatens the existing system. Toxic assets are where Bataille's waste and expenditure, the accursed share, mesh with Virilio's original and integral accidents. The original accident is the kind of accident we bring forth ourselves. The integral accident is the accident that integrates us globally, Virilio claims. The current crash represents the perfect integral accident. Its effects ripple far and wide, and it incorporates the representations of all other accidents, sort of the meta-accident, or the accident to end all previous accidents. What constitutes toxic assets is the waste of the financial system, the accursed share of expenditure, credit card, car loan, mortgage-backed securities, MBS, mortgage-backed collateralized debt obligations, which we're all hearing more and more of, CDOs, and the credit default swaps, CDS, the most famous. The insurance sold and resold on high-risk bonds, mortgages, and credit cards to supposedly protect against default, all bundled and sold as risk-free investment, except they were only risk-free 99% of the time, with no account that there might be a black swan. The risk assessment formula, the Gaussian copula function, that is front page on Wired magazine, front page on the Toronto Star, a piece of financial technology that allowed hugely complex default risks to be correlated. It had no way of taking into account the probability of many hundreds of homeowners defaulting on their mortgages at the same time. Why? Because the probability assessment was done without looking at historical default data. It was just virtual. The accursed share increases until it implodes and explodes. Implodes locally and nationally, I would argue, and explodes globally. What moved the global economic crisis out of the territory of the restrictive political economy? Restrictive political economy is that what we're used to. It's that managed by Keynes's state financial stimulus until the 1970s, then by neoliberal policies of deregulation, now returning to Keynes with a vengeance. And it moved into the excessive territory of general expenditure economy. Three related or interrelated events did this. First, a global investment economy whose bedrock was waste expenditure, particularly with credit default swaps, that derivative market of insurance against bond default that very quickly became a bigger and more liquid market than the bonds on which it was based. Second, an American consumption economy based on excessive borrowing expenditure. American political economist Richard Wolff of Rethinking Marxism, the Journal and the Conference, in his absolutely fabulous film that you can get on the internet called Capitalism Hits the Fan, says, quote, "The American working class, and that's middle class and professions included, proceeded to go on a borrowing binge that no other working class in any country at any time in the history of the human race has ever done before." And three, unbelievable profits. What Richard Wolff terms the greatest profit boom in the history of American capitalism and quite possibly any capitalism. The excessive corporate profits, the extreme surplus, couldn't go into the global industry, which was already producing at a global capacity, far in excess of the world's cash capacity to consume. So it created a derivative financial market, a paper, actually virtual market of excess, whose operative principle was the correlation of risk. The original accident, 30 years of flat wages, no increase in real spending power, exponentially excessive borrowing debt, Extreme profits reinvested in superfluous investment expenditure. It's a necessary accident. It's a programmed in accident of the system itself. It's the accident of capital. The integral accident, of course, is global. Globalization has resulted in a synchronized worldwide crisis because all economies have become integrated with each other and with the U.S. still at the core of the world economy, or what the political economists in my department would say, with the U.S. still in the position of empire. Bataille forewarned in his essay, The Marshall Plan, written in 1946, he said, the American economy is in fact the greatest explosive mass the world has ever known. And what he was suggesting there, which I'm sort of showing in the film, is that the American economy really is in the position of solar anus at the moment. Globalization gave rise to what Michel Foucault would deem its counter-discourse of anti-globalization or anti-neoliberal globalization, protesting globalization. The first conference I attended under this rubric was 1999 in Sydney. The most recent, which footage is from, was the 9th World Social Forum held every year to counter the World Economic Forum. There were 140,000 anti-neoliberal globalization participants at the World Social Forum. Second part of the talk, pastiche politics. Now, this is showing as an installation as well, and there's excerpts here. It presents events of the World Social Forum in Belém, Brazil, January 27th to February 3rd, 2009, filtered through the eye of a pastiche political theorist, that's me. It was produced for Canadian Dimensions blog, so it was up. And the deal was each film is shot, edited, and posted the day of the event. Each film is a partial temporal presentation of the World Social Forum's model, Another World is Possible. The filming style is influenced by Vertov's Man with a Video Camera, 1929, in which Vertov documented a day in the life of the Soviet Union by turning the camera on select events. I document 7 days in short films that run between 1 minute 48 seconds and 5 minute 13 seconds. The video camera is turned on select events, fragments of actuality, producing a pastiche of human political assemblage resisting globalization. Three events happened at the Belém Social Forum. That is three occurrences, using event in Badiou's way, three occurrences that were absent at previous social forums. First, the participation of indigenous people. What Janet Conway, who's a Canadian activist and academic, refers to as indigenizing the globe at the World Social Forum. And she has an article coming out under this title in Canadian Dimension. She suggests that for the Amazonian indigenous people of Brazil, the Belém event seemed a watershed event in the sheer numerical strength and visibility. There were well over 1,000. However, perhaps the most astute observation came out of a panel that assessed the significance of indigenous participation. The panel concluded that the indigenous people were partially in the position of decoration at the World Social Forum events and stressed that the issue is no longer one of bringing indigenous peoples into the World Social Forum. It is that the World Social Forum needs to join the 500 years of colonial resistance of indigenous peoples. The second occurrence was the strong global and Brazilian presence of eco-socialism. There were a number of eco-socialist panels and the second meeting of the Eco-Socialist International Network, which gathered to consider the draft of the Eco-Socialist Declaration. And there's quite a bit of footage of Joel Covell on that. And third, for the first time at its assembly of assemblies, the World Social Forum put forth a program for mobilization. It had refused to do this before. This program includes nationalization of banks, no reduction of workers' wages, energy and food sovereignty for the poor, ending foreign occupation of Iraq and Afghanistan, sovereignty and autonomy for indigenous peoples, The right to land, decent work, education and health for all, and democratization of the media. These three events position the World Social Forum, I argue, as a global political force. The last one, extreme aesthetics. I want to end with what Virilio terms extreme art, a global post-human aesthetic that is both science and art, art science. Extreme in Virilio's terms precisely because it redetermines and redesigns life and death. Corpus extremis, life plus. The most recent international bio-art show, it's currently still on at the New York Art Gallery called Exit Art Gallery. While 14 works are in the show, only two are presented here. Shelf Life 2009 by Susan Anker. She, using LED lights, she shows the Thai solar energy of expenditure action on plants. So I use the brilliant pink and blue images of Shelf Life as the backdrop screen for Bataille's writing on solar energy in the film. You've seen them looping by. And the film Shooting Theory that you're viewing. The second artwork, The Living Screen, by the art collective, it's an Australian art collective, Biokino. Biokino is a cinematic machine, bioprojector, that projects nanoscale movies onto microscopic screens made of living cells. So Biokino takes the new technology of microscopic film screens that it invented, that are alive, they're made of living tissue, and locates this new cinematic form inside two older aesthetics, thus redefining those as well, recoding them, those of the carnival freak show and those of early cinema. The properties of particular screens and the content of the projected nanofilms that you have to view through a microscope, through the bioprojector, they're conceptually linked. For example, the screen for Corpus extremis, Life Plus, is cow connective tissue. The nanofilm, in which I co-star, is the death dance of the Siamese twins, hearkening back to freak shows of an earlier era. The death dance of the Siamese twins before we are separated. I'm the twin that dies. The piece is a new techno hoax and homage to freak show heroes of yesterday. The Living Screen is as well a leading artwork in the burgeoning international body of tissue-engineered bio-art that brackets in the Husserlian sense, that is, puts in question living, death, art, science, political engagement. Thank you.
Merci, Madame Bell. La prochaine présentation sera celle de Miguel Benesayag, sans plus tarder.
D'accord, alors je ne tarde pas. Bonjour. Alors, moi je suis, sans que ce soit une décision prise consciemment, le représentant du Sud ici, parce que je suis argentin, bien qu'un habitant depuis très longtemps, depuis mon exil en France, je suis argentin. Alors, comme je suis le représentant du Sud, là on me pique mon appareil, et comme je suis représentant du Sud, je n'ai pas eu, j'ai pas pris la précaution d'écrire mon texte, j'ai pas eu la précaution non plus de faire un film. Alors donc, j'ai juste quelques notes, quelques points, mais il y aura deux avantages. D'une part, j'aurai pas le temps de me mettre à poil devant vous. Deuxièmement, quand celui-là va m'interrompre, ça aura l'air fini, parce que comme, il y aura aucun ordre, vous voyez. Alors donc, je commence comme ça, comme si on va dire comme que j'ai préparé le premier point, le deuxième point, que j'ai pas oublié mes lunettes, parce qu'alors là, pire encore. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, ça s'appelle les nuits de la philosophie, bien que soit l'après-midi. J'essaie de me situer malgré le décalage horaire. Et alors donc, philosophie. La philosophie est quand même quoi ? De mon point de vue, la philosophie est quelque chose d'assez simple, non pas facile, mais simple, n'est-ce pas ? Il y a une différence fondamentale, que quelqu'un qui travaille avec moi fait toujours, entre ce qui est simple et ce qui est facile. Ce qui est simple, pour dire comme ça, presque ontologiquement simple. C'est ce qui apparaît comme, nous apparaît comme une évidence. On dirait, d'un point de vue plus matérialiste, comme une sorte d'asymétrie, une saillance, quelque chose qui est là et qui nous convoque. Ce qui est facile est plutôt l'évitement de ça, vous voyez. On essaye d'éviter ce qui nous convoque, ce qui, dans une époque, fait saillance. Alors, la philosophie, c'est quoi ? Ben, la philosophie, c'est la possibilité de penser et d'agir par rapport et dans une époque concrète. Alors, penser, comme l'écrivait déjà Nietzsche, ce n'est pas penser n'importe quoi. Penser, ce n'est pas penser pour avoir plaisir. Penser, ce n'est pas penser et dialoguer, avoir des opinions. Penser, c'est s'atteler, relever les défis, de penser ce que l'époque donne à penser. C'est-à-dire que penser, ce n'est pas quelque chose qui obéisse à un libre arbitre comme ça, créatif. Penser, c'est vraiment s'atteler comme ça à cette surdétermination de l'époque dans laquelle on dit voilà ce que se donne à penser, voilà ce qui fait défi, voilà ce que dans moi m'appelle. Hein, c'est-à-dire c'est cet appel que je ressens et qui a un caractère objectif. Alors, qu'est-ce qui se donne à penser ? Puisque le titre de la rencontre, c'est par rapport à la globalité. Qu'est-ce qui se donne à penser dans la globalité ? Bien, je vais évoquer quelques points pour après revenir dans la discussion de ce que, de mon point de vue théorique et pratique, se donne à penser dans notre époque. D'une part, je crois quand même que la globalité et ces mécanismes à travers lesquels on a construit et on construit en permanence une discontinuité entre la vie réelle des gens, la vie concrète, la vie quotidienne, la vie immédiate et le monde. C'est-à-dire que plus on va parler du monde, plus on va avoir l'air sérieux de parler des vrais problèmes du monde, plus on sera une sorte de bouffon en train de parler quelque chose qui ne les regarde pas et qu'ils ne risquent absolument pas de rencontrer. C'est-à-dire que le monde globalisé, les problèmes des mondes, c'est pour lesquels on risque demain de mourir par une pollution, être au chômage, par une épidémie. Bon, bref, ce qui va nous toucher de plus près, c'est ce qui se présente dans notre quotidien comme le plus lointain. Et qu'est-ce qui nous est prêt ? Ce qui nous est prêt est cette fabrication néolibérale d'un monde dans lequel la vie, contrairement à ce que disait Deleuze, Deleuze, vous savez, il écrivait « La vie n'est pas quelque chose de personnel ». Moi, je travaille en psychiatrie, en psychanalyse, et j'adhère, n'est-ce pas ? Alors, je n'aurai pas le temps de vous expliquer, mais en tout cas, je dis comme ça, j'adhère, voilà, ciao. Et alors, vous direz « Ah, il adhère, ah ben c'est bien ». Et alors donc, effectivement, la vie, elle devient de plus en plus notre compte en banque, vous voyez, et notre histoire clinique. C'est-à-dire, la vie devient de plus en plus un truc tout fin, donc la production de l'impuissance. Moi, je crois que le premier point que nous devons évoquer quand nous évoquons la globalisation, nous devons évoquer cette déterritorialisation d'avec notre propre vie, d'avec notre propre quotidien, qui fait que de plus en plus les hommes et les femmes dans notre monde sont en distance avec leur propre puissance d'agir. Or, il me semble quand même que la puissance d'agir, la possibilité de sortir du pâtir, est vraiment un des axes de la philosophie, disons, non, parce que tous les mots qui me viennent sont inconvénients. Et alors donc, l'autre philosophie, disons, n'est-ce pas celle qui... bon, voilà, c'était encore pire ce que j'avais pensé. Et alors donc, effectivement, il y a une philosophie, disons, de l'opinion, voilà, ouf. J'étais sûr que j'allais trouver un mot correct à dire. Il y a une philosophie de l'opinion, il y a une philosophie qui va à rassembler des concepts, il te plaît mon concept, il te plaît pas ton concept, et les notes en bas de page, vous voyez, et est-ce que tu as cité un tel, bon voilà. Il y a une autre philosophie qui est la philosophie de la vie, qui s'intéresse à la vie, et qui dit, eh bien, par rapport à cette philosophie-là, La question, c'est comment quelqu'un, un peuple, une personne, une communauté, un organisme, hein, peut ne pas être que dans le pâtir. Or, la globalisation nous conduit à un pâtir radical, c'est-à-dire nous sommes dans l'impuissance totale. C'est fantastique parce que le triomphe mondial du capitalisme a réussi à faire que presque tout le monde est contre. Presque tout le monde est contre. À Davos, il faut entendre à Davos tous ces grands messieurs comme ça du capitalisme, comment ils parlent de que c'est un désastre, on va droit contre le mur. Tout le monde est contre, mais tout le monde sait qu'on n'y peut rien. C'est la naturalisation d'un système, la naturalisation de ce mode-là de pouvoir. Alors, effectivement, ceci a des caractères très concrets. D'abord, effectivement, le capitalisme et le néolibéralisme se présentent comme le régime de la raison. Vous voyez, la raison. Hein, on fait des comptes, on est rationnel, on produit ce qui est utile, on évite ce qui est inutile, et on construit comme ça une sorte d'utilitarisme radical qui va produire un mode de société, un mode d'homme. Ces modes de société, ces modes d'homme-là, se prétend, bien entendu, contrairement aux sauvages, absolument rationnel et donc non sacrificiel. Vous savez, c'est-à-dire quand dans la bourse, les valeurs commencent à descendre, il n'y a personne qui va aux chiottes se cacher pour égorger une poule, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans tous les cas, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Et alors, pourquoi? Parce que les personnes qui sont dans la bourse des valeurs, effectivement, eux, ils n'égorgent pas des poules. Eux, ils font des calculs. Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, un des problèmes du capitalisme qu'on a du mal à comprendre, c'est que l'Occident, dans son délire rationaliste, a réussi à créer la société la plus sacrificielle qui n'ait jamais existé. Sauf que le sacrifice dans toute société non occidentale, se présente comme une soupape de contention, vous voyez, c'est-à-dire la possibilité de négocier avec les puissances. Nous, il n'y a pas de puissance, nous, on est libre, nous, on décide tout seul, vous savez, on n'est pas comme l'âne de Buridan, vous savez, l'âne de Buridan qui était tellement con qu'il n'a jamais choisi la meule de droite ou la meule de gauche, et il est mort de faim. Nous, on est capable toujours de bouffer la meule de droite, alors là, ça, il suffit de voir le devenir du monde. Alors, effectivement, nous sommes dans un monde dans lequel le sacrificiel refoulé, permettez-moi quand même d'être un peu psychanalyste, fait le retour du refoulé, mais le retour du refoulé sinistre. Alors, nous sommes effectivement dans un monde dans lequel l'échec de la rationalité occidentale déterministe étroite compte pour s'en sortir avec encore plus de rationalisme, encore plus d'utilitarisme, parce qu'on a du mal à négocier avec tous ces contenus obscurs, avec tous ces contenus non évocables de façon utilitariste, voyez, qui pourtant constituent nos vies. Alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sectes partout, il y a les retours des barbus, des non-barbus, n'est-ce pas? Bien entendu, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un symptôme intéressant. Alors nous, non, nous, on va faire la guerre Occident contre l'Orient parce que nous, on est la raison. Non, nous, on est l'axe du bien. Et on se différencie énormément de l'autre parce que l'autre est l'axe du bien. Et alors, on est très différents. Mais effectivement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ces gens-là, ils nous disent, vous avez échoué dans votre rationalité utilitariste. Vous avez essayé de construire un monde dans lequel vous ne reconnaissez que ce qui est utile d'une façon linéaire. Ce matin, dans une petite conférence qu'il y avait, j'ai rappelé cette petit passage de Chuang Tse, vous savez, le sage taoïste, qui dit « Tout le monde connaît l'utilité de l'utile, mais presque personne connaît l'utilité de l'inutile. » Voyez, l'utilité de l'inutile. C'est ce que notre monde, dans la rationalité rationaliste, n'est-ce pas, occidentale, et qui veut qu'on fasse des choses utiles, c'est justement cette utilité-là profonde que notre monde ignore, parce que cette utilité-là, elle est complexe, contradictoire, n'est-ce pas? Eh bien, qu'elle adhère seulement à l'utilité linéaire. Je sais pourquoi je m'élève le matin, pour gagner tant d'argent. Je sais pourquoi je vis, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a trop de savoir. Pas seulement dans le monde, on ne vit pas une crise du sens, du manque de sens, mais on est dans un trop-plein de sens. On sait trop de quel côté il faut y aller, trop. Et on ne peut pas s'arrêter pour dire... Peut-être on n'en sait pas, peut-être il y a un non-savoir philosophique, tout à fait philosophique, n'est-ce pas, qui n'est pas de l'ignorance et que nos sociétés, ils ont du mal à assumer. Mais alors là, vu du sud, non, vu d'en bas, vous savez, vu d'en bas, on voit comme ce que tu montrais tout à l'heure, c'est-à-dire on est ou pas pourvu qu'il n'ait pas mangé, voilà. Et donc, oui, mais c'est comme ça, vous savez, parce que personne ne sait pourquoi nous, on est en bas et vous en haut, voyez, c'est-à-dire... Alors, il y a certains délirants chez nous qui font le monde à l'envers, mais ça ne tient pas, quoi, ça ne tient pas, c'est-à-dire, mais quand on est en bas, c'est comme la loi du poulailler, ça vous tombe, voilà. Bon, voilà. Alors, vu d'en bas, qu'est-ce que ça donne, ce monde? Eh bien, le monde de la globalisation est un monde qui nous dit quoi? Il nous dit, le modèle capitaliste néolibéral actuel n'est pas extensible. Ah, mauvaise nouvelle, quoi, c'est-à-dire, ah, mauvaise nouvelle, voilà. Non, ça suffit. 5 minutes, ça suffit pour dire 2 ou 3 qu'on n'est rien encore. Et le modèle n'est pas extensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous les Chinois avaient une mobilette, le monde pète dans les 5 minutes qui viennent. Si 1/1000 des Chinois avaient tous les 4x4 que j'ai vus ici à Montréal, le monde explose. Donc, on sait que d'ici à très peu, il n'y aura pas de l'eau pour tout le monde, il n'y aura pas de la bouffe pour tout le monde, il n'y aura pas... Bon. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas. Les modèles n'est pas extensible. Les modèles, au contraire, est en train de se rétrécir. Très bien. Donc, c'est quoi que nous voyons et c'est quoi que se donne à penser? Ce qui se donne à penser, c'est l'avancée de l'apartheid. Ce qui se donne à penser, c'est l'avancée de la construction fractale d'un monde dans lequel il y a des forteresses et des no man's land. Les forteresses, c'est le lieu dans lequel rien ne doit se passer, voyez. La vie des gens qui habitent dans les forteresses est très importante, très importante. La moindre hémorroïde de quelqu'un du Nord équivaut à 10 enfants morts de faim dans le Sud, voyez. C'est-à-dire que, et je reste court par rapport aux sous-investis, voyez, pour un problème et l'autre. Alors, la question qui se pose pour nous, hein, la question qui se pose pour nous, c'est la suivante. Est-ce que les citoyens des pays du Nord veulent arriver à ce point de non-savoir qui nous convoque, que l'époque nous convoque, on ne sait pas de quel côté ça continue, ou bien ils veulent continuer dans ce sens-là? Si on continue dans ce sens-là, voilà le problème, que je ne sais pas si c'est philosophique ou pas, mais c'est notre problème, il va falloir tirer aux frontières. Vous comprenez? Il va falloir tirer aux frontières. Parce que les forteresses devront se fortifier de plus en plus, et les autres, on ne va pas se laisser mourir de faim, on ne va pas se laisser crever sans venir. Alors, le véritable problème aujourd'hui, c'est que notre monde doit pouvoir assumer quoi? Doit pouvoir assumer, non pas si un autre monde est possible, parce que vous savez, la question, quand ils disent « un autre monde est possible », chiqui-chiqui-chiqui-chiqui, en brésilien, on dit « est-ce qu'il est souhaitable, n'est-ce pas ?» Alors, mais la question, c'est de savoir si est-ce que nous pouvons assumer, et dans quelle mesure nous pouvons le faire, c'est non savoir partager. C'est-à-dire, nous ne savons pas, on ne peut pas décréter la décroissance, on ne peut pas décréter les désirs des gens, on ne peut pas dire tu ne dois pas désirer un 4x4, n'est-ce pas? Mais effectivement, notre question, c'est comment nous pouvons, je te promets que j'ai fini là, si nous sommes dans les nuits de la philosophie, à 4h de l'après-midi, bon, peu importe, si nous sommes dans les nuits de la philosophie, eh bien, nous devons savoir qu'aujourd'hui, faire de la philosophie, ça signifie, c'est donner les moyens concrets, matériels et objectifs de créer des lieux, des pensées et des développements, des pratiques dans lesquels ces non-savoirs sur le monde, sur la vie, puissent exister. Faire de la philosophie aujourd'hui, c'est assumer ces défis-là. Et tchang tchang comme dans les tangos.
Alors, merci à nos 3 panélistes. Voici déjà un début de réflexion parmi toutes les autres réflexions qui, j'espère, débuteront durant cette nuit de la philosophie. Des réflexions qui sont le matériau même par lequel le monde va arriver à saisir ce qui en lui est essentiel, on l'espère, pour qu'il recommence et qu'il ne disparaisse pas. Nous allons terminer ici pour les gens qui sont à la télévision, qui nous regardent à Canal Savoir et sur Internet. Malheureusement, vous n'aurez pas le privilège de poser des questions. Ça, c'est un privilège qu'on va réserver aux gens qui sont avec nous dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale aujourd'hui. Donc, je vais souhaiter au revoir aux téléspectateurs et merci. C'est pour la télé. Alors, une fois qu'on a réglé ça, vous avez des micros dans la salle qui sont à votre disposition pour venir poser des questions à nos panélistes. Je vous demanderai de garder les questions brèves, s'il vous plaît, que ce soit des questions ou de courts commentaires, mais s'il vous plaît, ne faites pas une autre conférence à votre tour. Voilà, sans plus tarder, ici.
Oui, ma question s'adresse à M. Freitag, mais j'invite aussi Mme Bell et M. Benassayag à répondre parce que je pense que ça couvre pas mal le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Alors, M. Freitag, vous parlez de l'infiltration du capitalisme dans la totalité des sphères de la vie humaine, si j'ai bien compris, sous la forme, semble-t-il, d'une dénaturation. Alors, mes deux premières questions sont les suivantes. Faut-il retrouver la nature des choses? Si oui, comment faire? Mais en fait, plus fondamentalement, peut-on réellement sortir des constructions politiques, culturelles, idéologiques?
Bon. Je commence à répondre, puisque vous m'adressiez la question en premier. C'est sûr qu'il y a une dénaturation par rapport à la nature des choses telles qu'elles se sont faites elles-mêmes. Sans se prononcer philosophiquement sur que devrait être la nature humaine, que devrait être la nature de la société, etc., ce sont des réalités qui se sont faites à travers, disons, des millénaires, à travers une histoire. La vie se fait sur plusieurs milliards d'années. Or, la dénaturalisation qui s'opère à travers l'arbitraire du capitalisme, à travers l'arbitraire de l'emprise de la loi de la valeur sur la production directe de ces choses, est totalement irresponsable par rapport à leur capacité de survivre dans le monde qui est un monde complexe où toutes les choses sont en interrelation. Vous voyez ? Donc là, sans se prononcer philosophiquement sur la nature des choses, on sait que la nature des choses, c'est une nature qui est héritée depuis très longtemps et qui comporte dans son mode même d'existence les interrelations qui ont été, si vous voulez, plus ou moins arbitrées par un équilibre dont la preuve est que les choses existent. Si c'était trop déséquilibré, elles n'existeraient pas. Donc là, c'est le modèle de l'apprenti sorcier. Quand on met le doigt dans la production biologique, quand on met le doigt sur la production à la limite du désir humain, on sort le désir humain de l'expérience humaine, on sort le désir humain de la culture humaine et on manipule le désir sur des bases qui sont totalement ignorantes de la réalité et des conséquences. Et donc, on produit finalement un monde d'artificialité qui est à tenir à bout de bras indéfiniment parce qu'il ne tient plus tout seul. Jusqu'à présent, les choses tenaient plus ou moins tout seul, ensemble, voyez. Donc, le monde que produit l'intervention, la pénétration du capitalisme, c'est un monde qui dépendra infiniment plus tous les jours du capitalisme, simplement pour exister encore, et ceci d'une manière exponentielle, jusqu'à forcément qu'un jour, ça se casse, voyez. Alors maintenant, la réponse, c'est qu'il faut retirer, pendant qu'elles existent encore, la plupart de choses de cette emprise. Et comme c'est très difficile à faire quand on dépend de la dynamique du capitalisme simplement pour survivre, soit d'une manière positive pour vivre bien, mais en étant de plus en plus attaché à la consommation comme bien vivre, ou soit quand on est exclu et à travers cette exclusion qu'on prend unilatéralement, si vous voulez, le mauvais côté du capitalisme comme sa condition existentielle première, parce que en même temps le capitalisme nous a enlevé les autres moyens plus anciens, plus archaïques, plus autonomes que les gens avaient de vivre jusqu'à lui, eh bien, quand on est dans cette situation-là, je pense que tout ce qu'on peut retirer à son emprise doit être retiré à son emprise, et puis que c'est dans les périodes de crise qu'il est relativement facile de le faire, parce qu'il lâche prise. On a vu, il lâche prise sur un certain nombre de choses, et la première réaction politique, c'est de voler au secours du capitalisme pour qu'il puisse reprendre prise sur ce qu'il est en train de lâcher. Mais comme je l'ai aussi évoqué, évidemment je ne l'ai pas démontré, c'est que en même temps, on force la société à intervenir en s'assujettissant encore plus profondément à la logique du capitalisme, et c'est comme ça que ça s'est passé depuis plusieurs siècles. Regardez le keynésianisme, regardez la social-démocratie, c'était évidemment pour sauver des gens des misères dans lesquelles le capitalisme pouvait les plonger, voyez. Mais le fait de le faire sans soustraire la logique qui a produit ça à au principe du capitalisme, a simplement conduit à absorber l'État dans la gestion du capitalisme. L'État est devenu de plus en plus responsable de la gestion du capitalisme, et donc on a élargi son emprise. Alors je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question.
Monsieur Benessayag et Madame Bell, voulez-vous réagir également ? On vous avait interpellé sur le même sujet.
Je voulais dire quelques mots par rapport à ta question précisément. Je pense qu'effectivement, la question des dégénérescences et destruction par rapport à quoi se pose. Et on a le droit de se la poser. C'est-à-dire, parce que quand on n'arrête pas de dire, voilà, le capitalisme est en train de détruire des choses, de dégénérer des choses, vous voyez, et on peut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas tout bêtement une vision passéiste, une vision de peur par rapport à un changement, hein, voilà. Ou est-ce que, donc, quel est le patron, quelle est l'invariable, pour parler dans ces termes-là, par rapport à laquelle nous pouvons mesurer une dégradation quelconque? Alors, du coup, je passe une annonce, non, parce que ce soir, très très tard, à 23h, j'ai fait une conférence sur mes travaux en biologie par rapport à l'artefactualisation de la vie qui touche à ça. Parce que c'est vrai que c'est mon travail en recherche en biologie qui consiste en quoi ? Consiste à dire, nous ne pouvons pas parler d'une nature blessée ou d'une nature violée si nous ne pouvons pas aujourd'hui reposer la question de mais à quoi on nomme la nature ? Or, vous savez, s'il y a des biologistes, je sais pas, des scientifiques dans la salle, vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous avons du mal pour définir à quoi on appelle la vie. C'est-à-dire que d'un point de vue biologique, nous avons du mal à dire ça, c'est la vie, où commence, où finit, etc. Alors, moi, je crois qu'effectivement, la position un tout petit peu de retrait qui dirait il faut remettre l'homme au cœur de l'économie, il faut mettre l'homme au cœur de l'urbanisme, est une solution un tout petit peu fragile, parce que il me semble que l'homme, là, est considéré comme un absolu qui n'existe pas. C'est un absolu qui... C'est-à-dire que la figure de l'homme, hein, d'un point de vue foucauldien, d'un point de vue philosophique, la figure de l'homme n'a pas assez d'épaisseur, n'est pas assez ancrée ontologiquement dans quelque chose, comme pour qu'on puisse, face au désastre écologique et démographique actuel, invoquer l'homme, voyez, comme si l'homme est quelque chose qui pouvait arriver tout pur et nous sauver. Donc il me semble qu'effectivement la question d'une post-humanité en positive, non pas une post-humanité dans le sens de dire, voyez, par exemple pour nous on dit la médecine n'est plus au service de l'homme, alors on dit merde, c'est quand même grave, alors elle est au service de quoi ? Eh bien, effectivement, cette post-humanité, on la vit que comme négative. Je crois quand même qu'il est largement temps de penser les nouvelles articulations irréversibles entre artefacts, vie, transformation écologique, pour comprendre quel est le socle, quelles sont les invariantes qu'il faut défendre et par rapport auxquelles on parle de dégradation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a tout un travail très, très important pour savoir qu'est-ce qui est vraiment attaqué. Vous comprenez ? On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est attaqué. Et je crois, en tant que militant, moi j'ai milité pendant très très longtemps en Argentine dans la résistance contre la dictature, je milite dans l'alternative, ce qu'on appelle le contre-pouvoir. C'est-à-dire que, en tant que militant, moi je pense vraiment qu'un des problèmes qu'on a pour résister, c'est que nous ne savons pas au nom de quoi résister, vous comprenez ? Et on ne peut pas résister seulement d'une façon négative. On ne peut pas simplement dire « non, ça m'a fait peur, non, ça c'est mauvais ». Si nous sommes si impuissants, c'est parce que nous n'avons pas un socle qui nous permet de dire « là, c'est ça qu'on est en train de détruire et ça, c'est le socle qu'il ne faut pas toucher ». Alors, ce soir, à 23h, je vous donnerai la réponse.
See, I think what's interesting is that we're both located in the most destructive and also most hopeful moment in what was known and is known as capitalism. The question is what one does if one is in privileged positions like us. I think, you know, we both put it in brackets, that is, attempt to unthink what we know about it, and also combine that with action. And I think it's really kind of hopeful that so many people are protesting. Not that the protest may necessarily lead somewhere, but there's action built into the, I guess, disappointment and fear and anger. So as far as conceptually how to analyze it. You could have used, really, for this talk, one could have used endless number of concepts. And ultimately, it really wouldn't make all that much difference. You know, so I guess one chooses the concepts one thinks will lead to an analysis that they're comfortable with, all the while realizing that they're making an analysis from a privileged position. You know? So, but with that, holding an integrity not to do more damage to thought and to existence.
Thank you.
I think we choose our concepts carefully, and we realize that any concept you're using publicly is overused, and it's probably not going to get to the very root of a problem.
Merci. Alors, monsieur, à ma gauche.
Oui, bonjour. Moi, je suis un rat de laboratoire, je crois, parce que je travaille dans une multinationale de l'armement, là, puis des complexes militaro-industriels. J'ai été foutu à la porte de Pratt & Whitney il y a à peu près 25 ans parce que je militais. Puis là, eux autres m'ont réengagé. Puis ça fait 22 ans que j'ai l'impression d'être complètement manipulé. Fait que là, je pense qu'on a oublié la mainmise. Dans le fond, le capitaliste, il contrôle absolument rien, sauf ce qu'on a entre les deux oreilles. C'est là le hic, là, parce que l'argent, c'est un symbole. C'est rien du tout. Puis, fait que moi, la question, c'est ça. Vous avez oublié la mainmise sur la pensée, puis sur le militarisme. La madame, dans sa vidéo, on voyait le Che, mais le Che, je suis pas dans le voir, puis actuellement, le film, dans les annonces des journaux, tu vois la mitraillette. Mais moi comme militant, dans le temps des années 70, le mouvement de libération, j'étais avec dans la guerre du Vietnam, j'étais pour ça à l'être armé, mais là je m'aperçois que ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'est pour ça que je suis devenu pacifiste. Là. Mais la bourgeoisie a la même mise sur le militarisme aussi. Puis pour le monsieur qui disait que fallait rendre l'inutile utile, mais ça, c'est le taoïste que vous avez dit. Ou, en tout cas, pour moi, religion, c'est toute la même bullshit. C'est que ce monde-là, ils sont éternels. Fait qu'ils peuvent bien se permettre de se faire exploiter toute leur vie. Ils peuvent se permettre de faire des niaiseries toute leur vie. Mais moi, je vais être heureux dans ma vie.
Merci. Quelqu'un veut réagir?
Non, mais je suis d'accord qu'il soit heureux. je vous le souhaite, d'ailleurs. Mais par rapport au taoïsme, il y a une dérive religieuse du taoïsme, pourquoi pas, oui, c'est-à-dire comme Marx, il n'a jamais pensé faire l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre peut-être une pensée forte avec les conséquences institutionnelles à travers les siècles, bon, mais peu importe, bon, la question de Lao Tse. Je crois qu'effectivement, le capitalisme a gagné parce que il a gagné dans nos têtes, dans nos désirs. C'est-à-dire que nous désirons ce que le système produit. Nous voyons même pas qu'est-ce que nous pouvons désirer d'autre. Or, c'est là où ils ont gagné la guerre pour le moment, dans tous les cas. C'est qu'ils ont gagné la guerre parce qu'on n'arrive même pas à voir qu'est-ce qu'on pourrait désirer d'autre. Alors, moi, en France, nous militons beaucoup avec les gens qui critiquent la croissance, donc les décroissants ou la croissance alternative, etc. Et malheureusement, on est dans ces milieux-là trop dans une attitude un peu, justement, un peu religieuse, un peu morale, c'est pas bien. Alors, il y en a qui disent, bon, voilà, je prends ma douche, après, je fais les spaghettis avec l'eau, vous voyez, bon, on dit, bon... C'est-à-dire, est-ce que ça a un bon goût? Elle dit, bon, d'accord. Et, ouais, alors donc, pour le moment, les modèles alternatifs posent des problèmes. Alors, par rapport à ça, moi, je crois quand même, mais c'est un peu long, je ne sais pas si on a le temps ou pas, parce que ça m'énerve qu'il vienne m'arrêter. Mais,
j'ai rien fait, moi, là.
En fait, je crois quand même qu'on est dans un moment dans lequel la recherche est en pure intensivité. Vous voyez, c'est-à-dire on cherche à voir qu'est-ce qui est possible d'autre d'une façon intensive. C'est-à-dire, quel autre mode de vie, de désir, de relation, vous voyez, sont possibles en intensive. On n'est pas du tout dans un moment dans lequel on doit rendre extensive la chose. Alors, de ce point de vue-là, vous savez, en Amérique latine, on connaît des développements, des expériences alternatives, des trocs, des vies, des solidarités, des trucs comme ça, alternatives, qui atteignent souvent, d'une façon assez rapidement, une sorte de masse critique. Vous voyez, ne sont pas extensibles. Alors, ceci n'est ni négatif ni positif. Il faut comprendre quand même qu'il y a un côté éphémère et utile à ce type d'expérience parce qu'on est dans une époque dans laquelle, voilà, il faut libérer les têtes et libérer l'agir. Et ça ne peut pas se faire en parlant. Ça doit se faire en expérimentant d'autres choses. Vous voyez? Alors, il me semble quand même que oui, le capitalisme a gagné dans la tête, dans les désirs. Et alors, juste un petit exemple. Moi, j'ai un ami en France, mais j'imagine qu'il est connu, José Bové, ici aussi. Alors, moi, je lui fais toujours la blague à José, comme il m'aime bien. Il dit, bon, il est lourdingue, l'argentin, mais il ne râle pas. Je lui dis, parce que José Bové s'est fait connaître parce qu'il a démonté un McDonald's, vous savez. Bon. Alors, j'ai dit, bon, notre problème à nous, les alternatives, José, c'est que nous savons démonter un McDonald's, très bien, mais nous ne savons pour le moment absolument pas faire un autre restaurant qui soit aussi désirable que le McDonald's, vous comprenez? Alors, c'est pour ça que notre question est, résister, c'est créer. Créer les possibles alternatives, vous voyez? Et là, je passe la pub parce que c'est un bouquin qu'on a créé avec Florence Lovenin, ça s'appelle « Résister, c'est créer ». Les ressortissants du tiers-monde, on est comme ça, on a besoin de passer la pub de temps en temps.
Merci. Monsieur à ma gauche, ici.
On peut dire d'une certaine façon qu'un des problèmes de la vie actuelle, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui pensent et de plus en plus qui dépensent. Alors, dans cette optique-là, il faudrait peut-être voir un peu qu'on s'en va vers la fin. Bon, la façon que nous vivons tous, on essaie de s'en sauver tant bien que mal, d'être des individus apparemment plus purs et plus parfaits. Mais je pense qu'on s'en va vers la fin, non pas du monde, mais d'un monde. Et ce qui m'inquiète quand même un peu aujourd'hui, je me dis, si dans la salle aujourd'hui, c'était des enfants d'un an, deux ans, trois ans, qui comprenaient ce qu'on était en train de se dire et qui pourraient projeter vers l'avenir la réflexion qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il leur resterait d'espoir en bout de ligne?
Moi, je pense que ce qui resterait comme espoir, c'est quand même l'idée de qu'une minorité parmi nous acceptons ou tentons d'être des adultes qui, au-delà de tout intérêt immédiat et petit, tentent de penser et d'agir dans le monde, quoi. Et c'est ça que n'y a pas d'espoir projectif. L'espoir, il est au présent. S'il y a une minorité des gens qui, aujourd'hui, acceptent de faire l'effort de se désolidariser des idéaux dominants pour s'occuper tout bêtement, voilà, du monde, de ce qui nous regarde. Vous voyez, les flics, ils disent partout dans le monde, circuler, il n'y a rien à voir. S'il y avait une petite partie qui disent non, d'abord, il y a à voir et ça me regarde, déjà, c'est pas mal. Et c'est ça le message pour les enfants, pour les moins-enfants, pour tout le monde, quoi. Le message, c'est de dire, ça nous regarde et on doit agir.
Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir? Shannon, M. Freitag?
Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a peut-être une chose que vous avez dite, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. C'est vrai, mais je pense qu'il y a le risque de la fin du monde. Je veux dire, il y a une unicité, pas forcément du monde humain. Il y a eu plusieurs formes de société, mais le monde de la vie, c'est une unicité apparemment dans l'univers, ou en tout cas, s'il y en a d'autres, ils ne seront pas pareils aux nôtres. Et là, c'est quelque chose qui est très gravement atteint par le type d'expansion capitaliste que nous connaissons, voyez. Donc là, il y a une limite, il y a une frontière qui est plus dramatique que le fait qu'il y a eu plusieurs manières de vivre dans le monde et qu'on est simplement au terme d'une de ces manières de vivre et que fatalement, il en viendra une autre plus ou moins tard. Mais je pense que maintenant, il y a une urgence qui est fondamentale, voyez. Donc je pense que ce sentiment d'urgence, c'est aussi un espoir dans le sens que, en général, dans le sentiment d'urgence, quand tout le monde ressent l'urgence, on est capable d'inventer des choses. Tandis que quand c'est pas si grave que ça, eh ben on a ce sentiment d'impuissance, on a ce sentiment que finalement on se laisse porter par les choses parce qu'elles sont pas directement en train de nous tuer, vous voyez.
et c'est pas au niveau individuel, mais c'est effectivement au niveau des formes de vie que nous partageons que le danger est pour le moment le plus grave. Mais je pense qu'il faut insister sur la singularité du monde dans lequel nous vivons et sur la menace extraordinaire et tout à fait nouvelle qui pèse sur lui. Je pense que dans l'ordre des sociétés humaines, la transformation qui est en cours est exactement ou même de plus grande ampleur que celle qui avait fait les humanités historiques, c'est-à-dire la révolution néolithique, l'invention du pouvoir, l'invention de l'écriture, etc. Ce qui se passe maintenant, c'est de même ampleur. Et puis, au point de vue du monde naturel, ben, ce qui se passe maintenant, mais c'est, tout le monde le dit, c'est de l'ampleur de la disparition des dinosaures. Voyez, alors, il est revenu quelque chose après, puis après notre monde, il viendra quelque chose, sans doute. Mais nous sommes liés à ce monde-là, et nous avons finalement un amour de ce monde-là et une responsabilité vis-à-vis de ce monde-là. Et se laver les mains en disant « bon, la nature, elle va toujours s'en sortir », c'est juste une défaite de l'existence humaine que nous partageons. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas cette défaite, vous voyez.
La seule chose que je souhaite, finalement, c'est que à travers tout ça, on garde quand même le sens de l'humour que Monsieur Benessaïen.
Merci. À ma gauche, à ma droite, pardon, madame.
Désolée d'être à votre droite.
C'est toujours relatif. Hein?
Je vais continuer un peu sur la même lancée parce que, en même temps, ce que vous nous dites aujourd'hui est profondément déprimant. Et pour la militante que je suis, en tout cas. Mais en même temps, il nous fait accrocher à des choses sur lesquelles on devrait peut-être accrocher plus souvent. Et je me réfère précisément à la question... Bon, moi, j'ai plus l'habitude d'aborder les choses du point de vue politique qu'autrement. Je suis déstabilisée un peu et je savais que j'allais l'être en venant ici. Mais je me demande, est-ce que on n'évacue pas dans nos actions ou nos tentatives de résistance trop facilement où on ne sait pas vivre. En tout cas, pour moi, je pense que je ne sais pas vivre avec la réalité qu'il n'y a pas de modèle applicable en soi. Une fois, on va se battre pour quelque chose qui a un contour défini, qui a une profondeur définie, etc. En plus que, comme vous le dites, on ne sait pas de quoi on parle parce qu'on n'a pas examiné les fondamentaux qu'on veut défendre. Alors, moi, je trouve que ce sur quoi vous n'avez pas assez insisté, peut-être, en tout cas à ma satisfaction, c'est la capacité de vivre dans la construction de quelque chose qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que ce quelque chose.
Je vais essayer de vous contenter parce qu'ils m'ont dit quand la dame va parler, il faut que tu la contentes. Alors, j'attendais que la dame qu'il fallait que je contente parle. Alors. Donc, non, au fait, vous connaissez ou pas, je ne sais rien, vous connaissez la fameuse intervention de Jean-Paul Sartre quand il a eu ces mots qui par rapport à quand son connaissance de la réalité de l'Union soviétique, du Goulag, etc., qu'il a dit « il ne faut pas désespérer Billancourt ». Alors, Billancourt, pour ceux les jeunes, ce n'est pas le nom d'un bonhomme, hein, ce n'est pas qu'il s'inquiétait de la santé mentale de Jean Billancourt. Billancourt, c'était l'usine Renault. Renaud Billancourt. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire, Jean-Paul Sartre? Il voulait dire, si on dit aux ouvriers la vérité du paradis soviétique, ils vont se désespérer, ils ne vont plus bouger. Moi, Sartre est un homme que j'admire, que j'aime, que j'ai eu la chance de rencontrer quand je suis arrivé exilé. Et c'est donc avec beaucoup plus de force que je peux critiquer cette position-là. Parce que cette position-là me semble être une position absolument paternaliste, aristocratique et méprisante envers les gens. Parce que ça consiste à dire que lui, parce qu'il est un intellectuel, il peut connaître une partie, c'est pas toute la vérité, vous imaginez toute la vérité, que ça veut dire ça, mais une partie de plus de la vérité, et lui, ça ne l'a pas fait, c'est désespéré ou devenir droitier. Lui, il a continué à avoir des positions de gauche. Et alors pourquoi est-ce qu'un ouvrier de Billancourt, s'il connaissait cette vérité-là, aller se désespérer, vous comprenez? C'est-à-dire, alors, à mon avis, en tant que militant, moi j'étais pendant très... Vous parlez de, d'abord, j'ai compris le chi, alors j'ai dit non, le chi, ça va être un chinois révolutionnaire, mais c'était le chi, au fait. Alors, effectivement, j'ai milité, c'est une question d'accent, au fait, j'ai milité, effectivement, dans la guérilla guévariste pendant 9 ans de ma vie, donc 4 ans et demi en tôle, etc. Bon, effectivement, en tant que militant, j'ai toujours soutenu le fait de que nous ne devons jamais tomber dans ces pièges-là de ne pas vouloir désespérer les petits ouvriers de Billancourt ou qui que ce soit. Nous devons partager une situation, vous voyez ? Nous partageons une situation. Or, à moi, ça me semble ça, d'un point de vue même médical, ça me semble beaucoup plus optimiste de faire un bon diagnostic que de dire « Non, non, tu sais, il a une grippe. » Vous voyez ? Ah, il a une grippe, ah, ben, d'accord, alors tout le monde s'en va et l'autre crève. Alors, donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus optimiste dans l'action, dans l'agir, le bon diagnostic. Il ne me semble pas que le bon diagnostic décourage l'action. Alors, par rapport au modèle, je vais vous dire, je suis convaincu, mais vraiment convaincu, que nous avons tout à fait intérêt à bouger par rapport à une politique plutôt axiomatique, c'est-à-dire à partir des principes et des hypothèses immanentes, ici présentes, vous voyez, c'est-à-dire par rapport à ça, on agit comme ça, par rapport à ce qui existe là, n'est-ce pas ? On a beaucoup plus intérêt à produire de l'agir comme ça qu'à travers un modèle idéal qui nous promet que demain, on va raser gratis. Je crois qu'un siècle de révolutions qui ont produit le contraire de ce qu'elles voulaient doivent nous apprendre que les mouvements qui ont triomphé, les mouvements femmes, les mouvements antiracistes et les mouvements des droits civiques, sont des mouvements qui ont triomphé parce que, justement, n'avaient pas un modèle de comment la société devait être, mais il y avait une sorte de base axiomatique de comment bouger et qu'elle avait une sorte de dynamique et plasticité qui permettait en situation de choisir parfois les mouvements féministes. Au nom du féminisme, défendait dans un pays une chose et dans l'autre pays la chose contraire. Eh bien, cette liberté-là nous est donnée parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas un modèle que les humains, mais une libération de l'agir. Ça, c'est la bonne nouvelle peut-être de notre époque. La bonne nouvelle de notre époque, c'est que de plus en plus de gens acceptent de que bouger, ce n'est pas être un petit esclave de l'espoir. Vous savez, Spinoza, il disait « L'espoir est une passion triste, parce qu'il nous laisse dans la crainte. » Vous voyez ? Alors, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux, puissant et fantastique que l'espoir du modèle que les leaders nous promettent, c'est cette liberté ici et maintenant, à travers des axiomes que, comme des hypothèses, on peut écarter quand ça ne marche pas, on peut, vous voyez, reprendre. Il y a une plasticité qu'il faut gagner. Alors, en tant que militante, moi, je pense que c'est ça. Je pense, honnêtement, d'un point de vue militant à militant, je pense qu'on a tout à fait intérêt à avancer ces courages-là, les courages de bouger sans promesse, mais à partir des choses qui nous semblent concrètes là. Aujourd'hui, en France, que M. Sarkozy aille chercher les enfants des sans-papiers aux écoles, qu'il mette dans des camps de prisonniers les étrangers, qu'il se serve des Marocains pour tirer aux frontières, bon, etc. Tout ça, ça, je n'ai pas besoin d'un modèle de comment la société doit être pour m'opposer par tous mes moyens à cette injustice-là.
Merci, M. Benessaï. Je voudrais remercier nos trois panélistes et aussi l'ensemble des gens qui sont déplacés aujourd'hui. Je vous encourage à jeter un coup d'œil à toutes les autres activités qui vont se dérouler à la Nuit de la philosophie durant tout le reste de la nuit. Certains d'entre nous, les plus courageux, sont encore là. J'en serai à 5-6 heures du matin. Si vous êtes là, on se verra là-bas. Donc, merci à tous d'être venus et j'espère que peut-être vous allez sortir d'ici et aller faire la révolution socialiste pour nous. Merci.